Bonjour chers auditeurs, Catherine Mann au micro pour L'Esprit du Livre, une émission qui vous présente chaque mois quelques livres de parution récentes ou plus ou moins récentes et qui concernent directement et indirectement la foi chrétienne. Et voici tout d'abord le père Roger Willem qui vous présente un premier ouvrage.
J'ai le plaisir de présenter un premier ouvrage. Je recommande activement la lecture pour toute personne qui a besoin de voir la vie autrement. Il s'agit de Passeur de joie de Jacques Mullier. Le sous-titre, Se laisser questionner par les autres et par Dieu. C'est paru aux éditions La Nouvelle Cité. C'est un récit paru en mars 2017. Jacques Mullier est un ancien dirigeant d'entreprise, ancien président de Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens d'Île-de-France, engagé au sein de l'Association internationale des Amici Tome Amori, SLDTI Ilesum. Il est l'auteur de « Prier 15 jours avec Thomas More » et de sa biographie, Thomas More, au risque de la conscience. Voilà. L'introduction entraîne d'emblée le lecteur au cœur de ce récit. Début du journal de Tillezoum, en mars 1941, moment pénible. Vaincre mes réticences et livrer de mon cœur un candide morceau de papier réglé. C'est le même état d'esprit qui m'habite au début de ce trilogue avec deux riches et fortes personnalités, Thomas More et Tillezoum, qui ont connu l'un et l'autre une fin tragique à 400 ans d'intervalle. C'est aussi au début du journal d'Etty Lesum que se trouve cette citation d'Alfred Adler. Toute personne qui entreprend un travail d'importance doit s'oublier elle-même. Alors, pourquoi ce titre Passeur de joie? Ma vie d'homme fut et reste le témoin de la présence aimante et attentive de Dieu que j'ai reconnue un jour de printemps de 1963 dans un monastère bénédictin. J'ai fait cette découverte. Dans sa règle, saint Benoît écrit dans son très long chapitre de nombreuses pages sur l'humilité, chemin de sainteté. Voici 1500 ans, saint Benoît nous dit déjà que l'humilité passe par l'obéissance à la loi d'amour de Dieu. Cette obéissance est ce qui me permet d'entrer dans l'amour infini de Dieu afin que ma volonté soit ajustée à son amour pour moi. Il passe par la découverte de ce qui se cache derrière mes désirs afin d'en libérer la force pour suivre le Christ et l'orienter vers la vie. Je sais que, et j'expérimente chaque jour que cette humilité ne va pas de soi au fond de moi-même. J'aime être reconnu comme fort, courageux, intelligent, etc. et recevoir des compliments que je récuse, bien sûr, avec une fausse humilité. À ce stade, je n'hésite pas à emprunter une nouvelle fois à Thomas More une réflexion souriante dans laquelle il se moque de la vanité des vaniteux qui ont sans doute des difficultés à reconnaître leur fragilité. Quant à la chose elle-même, dit-il dans sa propre nature, qu'est-elle d'autre que le souffle de la bouche d'autrui aussi vie aussitôt disparue qu'aimée. Oui, il y a de la grandeur à aimer et à se laisser aimer. Oui, pour conclure ce chapitre sur l'humilité, je cite le pape François. Ce qui fait la valeur de la vraie humilité, un parfum n'est senti que par Dieu, pas par celui qui l'émane. Oui, cet homme mérite d'être connu. Et c'est un livre que je recommande à tous ceux qui sont des quêteurs de vérité et des quêteurs d'amour, des inventifs. Et ce serait un beau livre à offrir à des prêtres qui sont réticents au changement, à offrir en cette période de la fête des pères ou des mères. C'est des livres importants.
Je vous présente un premier livre dont la bibliothèque diocésaine vient de faire l'acquisition. Il s'agit de « Jésus et le divorce » de John Paul Meyer, paru aux éditions du Cerf en février 2015. John Paul Meyer est un prêtre catholique américain, docteur en écriture sainte et professeur d'exégèse à l'université Notre-Dame, une des plus prestigieuses universités des États-Unis. Il est considéré comme l'un des plus grands exégètes contemporains et surtout il est l'auteur d'une impressionnante étude sur Jésus, le Jésus de l'histoire, 4 tomes, édités entre 1991 et 2009, dont le titre général est « Un certain juif, Jésus, les données de l'histoire ». Et en fait, le petit livre dont je vous parle, « Jésus et le divorce », est un extrait du 4e volume de cette grande œuvre. Les éditions du Cerf ont pensé qu'il était important de rééditer ce passage d'une manière plus accessible à tous, étant donné les besoins actuels de réflexion dans le cadre du synode sur le thème de la famille. Pour cette édition spéciale, l'auteur a réactualisé son texte et l'a complété d'une nouvelle préface et d'une nouvelle conclusion. Il pense en effet que son travail peut être utile dans les débats actuels de l'Église autour du divorce, dont vous savez sans doute qu'ils sont compliqués et toujours pleins de contradictions. En fait, John Paul Meyer réfléchit en historien, se demandant si les mêmes règles doivent subsister aujourd'hui, alors que le contexte social et religieux a tellement changé. Mais il ne veut pas vraiment prendre position, estimant que c'est le rôle des responsables de l'Église auquel il veut simplement apporter sa contribution de spécialiste pour éclairer les futures décisions. Ce livre est une étude exégétique, extrêmement minutieuse, pour atteindre une reconstitution historique aussi précise que possible de ce que Jésus a dit réellement et voulu dire à propos du divorce. Il montre clairement que ce que les évangiles et saint Paul nous ont transmis de cet enseignement est vrai, sans aucun doute possible. C'est-à-dire Jésus a totalement interdit le divorce et l'a amené sur le même terrain que l'adultère, pour lequel la loi de Moïse a émis un interdit sans contestation possible. Donc il nous invite à comprendre le fonctionnement d'abord de la tradition juive au temps de Jésus. Et nous découvrons un contexte de droit patriarcal, très défavorable aux femmes, où de fait l'homme peut répudier sa femme pour à peu près n'importe quoi, parce qu'elle fait mal la cuisine, parce qu'elle ne lui plaît plus. Enfin, donc, le divorce est un petit peu trop abus habituel. Quelques rares textes de l'Ancien Testament donnent des indications pour essayer de limiter très légèrement le pouvoir absolu du mari, mais ce sont des cas particuliers et rares, et il n'y a aucune règle clairement définie dans l'Ancien Testament. On n'y parle jamais du sort de la femme répudiée, ni même de celui des enfants. Tout le contexte de cette époque montre donc une grande facilité accordée aux hommes pour renvoyer une épouse qui ne plaît plus, et les quelques exhortations bibliques à la modération ne mettent jamais en doute un pouvoir masculin, indiscuté et à sens unique. Et parce qu'en effet, il n'y a pour la femme aucune possibilité de divorce pour elle. Elle n'a aucun droit. L'enseignement de Jésus s'inscrit donc en opposition évidente au comportement habituel des Juifs de son époque. Il ose interdire ce que les aménagements de la loi autorisent. Il fut donc non seulement lui-même contesté, mais parfaitement ignoré dans le judaïsme, où l'on ne commencera à réfléchir au divorce qu'après les années 200-220 après sa mort. Mais dans le christianisme naissant, cette prise de position de Jésus eut également bien du mal à être acceptée. Jésus demandait une radicalité absolue et imposait une règle tellement opposée à la nature masculine que dès l'origine, on a essayé de trouver des adoucissements pour rendre vivable cet idéal très beau, mais considéré comme inatteignable. L'interdit du divorce semble tellement dur que souvent, le célibat va lui sembler préférable. Il est presque amusant, en lisant ce travail de reconstitution historique, de constater le peu de changements qu'il y a dans notre monde actuel. Les mentalités n'ont pas beaucoup évolué depuis Jésus, et l'on trouve toujours que cet enseignement est irréaliste, voire choquant. Certains chrétiens le jugent même incompatible avec la charité habituelle de Jésus. En tout cas, l'interdit du divorce est avéré historiquement comme règle voulue par Jésus, nous dit John Paul Meyer, et cela fait réfléchir depuis plus de 2000 ans, donc, et c'est pas encore fini. Vous pourrez trouver ce livre dont je vous rappelle le titre, « Jésus et le divorce », paru aux éditions du Cerf, de John Paul Meyer. Il se trouve à la bibliothèque diocésaine rue Saint-Aimant à Chartres.
Voici un autre livre, plus difficile. La défaveur. C'est Patrick Kechichian. Patrick Kechichian, que vous connaissez peut-être parce que il a été le critique de livres dans le monde pendant plusieurs années. Oui. Ce livre paru aux éditions Absolem en avril 2017, c'est le titre La défaveur, c'est un récit. Patrick Kechichian est né à Paris en 1851. Il est critique littéraire et écrivain. Ce livre est surprenant. Je vous le recommande. Oui, il est difficile à lire, mais c'est un livre d'une extrême richesse spirituelle. C'est l'histoire intérieure d'un enfant, puis d'un jeune homme, de sa formation, ou plus précisément de son édification. Fils d'immigrés, l'enfant en question a 20 ans au début des années 1970 et il vit à Paris au quartier latin. Là, il observe avec mélancolie, réfléchit autant qu'il le peut, il lit, il écrit. Il tente de s'éduquer dans la langue et la culture de son pays d'adoption et il se convertit au catholicisme. Dieu, le langage, la parole et la littérature, la critique enfin, traceront pour lui des voies d'accès au monde et à son prochain. Il vivra intensément cette relation avec tous sa volonté, mais une volonté simple. Il est soucieux de développer en lui une intériorité qui lui permette de comprendre les autres et d'entrer en relation avec eux. Ainsi, écrit-il, l'intériorité n'est engagée et agissante que si le dehors ne se trouve ni amoindri ni méprisé. Entre ce dedans et ce dehors, il n'y a pas de hiérarchie raisonnable et si l'on insiste pour en imposer en une, elle le réduirait, lui, le petit homme, et tous ceux de son espèce encore davantage à l'état de poussière jetée dans l'univers, absorbé, dissous, sans visage ni voix, car ce monde, parce qu'il est habité, n'est pas le simple échatoiement impersonnel des couleurs et des sonorités. Du fond de l'intériorité doit être entendu l'appel de voix innombrables, assourdies par le jeu des apparences et des contradictions, rumeur immense de la communion des âmes, y compris dans l'incompréhension, la querelle ou le malentendu, dans la haine, la guerre et le ressentiment, y compris dans l'isolement. Alors, bonne lecture, chers auditeurs et auditrices. Vous verrez grand, après avoir lu ce livre, grand comme la beauté du monde et grand comme le cœur qui bat en vous. Thank you.
je vous présente un autre livre dont la Bibliothèque diocésaine de Chartres vient de faire l'acquisition et dont le titre est « Propos intempestifs de la Bible sur la famille », un livre de Philippe Lefebvre paru en octobre 2016. Vous me direz, encore un livre qui traite du synode sur la famille, de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia. Oui, bien sûr, mais ici, le ton est suffisamment original pour que ce livre puisse être lu avec un intérêt tout spécial. Philippe Lefebvre est prêtre dominicain, docteur ès lettres et docteur en théologie. Il enseigne l'Ancien Testament à l'Université de Fribourg en Suisse ainsi qu'à l'École biblique de Jérusalem. Il a déjà écrit de très nombreux livres, dont quelques-uns vous ont déjà été présentés sur cette antenne, comme par exemple Joseph, l'éloquence d'un taciturne, enquête sur l'époux de Marie. Et aussi beaucoup de livres et d'articles consacrés au thème de la famille et du rapport homme-femme. Je vous signale au passage que Philippe Lefebvre dirige aussi la prestigieuse collection Lectio Divina aux éditions du Cerf. L'originalité de ce livre-ci tient bien sûr à la lecture de la Bible comme source de réflexion. Mais c'est aussi une leçon magistrale sur la manière de lire les Saintes Écritures pour en faire une source féconde pour la vie de l'Église, pour éviter les stéréotypes, éviter la lecture fondamentaliste ou les théories bâties artificiellement à partir d'un petit extrait de texte choisi uniquement pour avoir gain de cause dans une polémique. L'auteur privilégie donc une lecture assidue et surtout complète de toute la Bible, voire l'ensemble des Écritures. Elles sont pour lui, elles doivent être travaillées en groupe de réflexion, qui sont des véritables laboratoires de pensée et des stimulants pour l'intelligence des Écritures. Il les pense donc sous une forme qu'il appelle « atelier de la parole ». De cette méthode de lecture, beaucoup de prises de conscience ont surgi en ce qui concerne la famille. D'abord que la Bible est pleine de contradictions et de paradoxes, et que ces apparentes difficultés sont justement là pour nous déplacer, pour nous obliger à réfléchir et à avancer dans une interprétation toujours vivante et adaptée au réel d'aujourd'hui. L'auteur prend la comparaison avec la parabole des talents. Lire la Bible, c'est faire fructifier un capital de départ. Par contre, les lectures étroites et figées risquent de stériliser ce dépôt sacré que l'on finit par rendre tel quel à son créateur sans qu'il nous ait été de quelconque utilité. Par contre, en acceptant de faire travailler le texte avec ses contradictions, on comprend que rien n'est absolutisé dans l'application des lois. Par exemple, Moïse, lui qui transmet la loi, qui reçoit le commandement pour Israël de ne pas conclure de mariage avec des peuples étrangers, ou surtout pas d'autres religions, eh bien Moïse lui-même a épousé une femme étrangère d'origine madianite. Ou encore autre exemple, celui de Ruth, la Moabite, qui va donc de la tribu de Moab, qui va épouser Boaz, qui est un ancêtre de Jésus. Donc, encore une fois, on transgresse les règles. Il en est de même pour les règles morales, comme celui de l'interdit de la prostitution, puisque Rahab, la prostituée, est celle qui aida Israël à entrer dans la terre promise. Et elle en fut récompensée en intégrant le peuple de Dieu jusqu'à, finalement, elle-même se retrouver dans la généalogie de Jésus. L'enjeu de la Bible est d'avoir Dieu comme partenaire de réflexion et de débat. Et c'est lui qui est là pour nous remettre en question. Je vous lis un passage où Philippe Lefebvre parle de cela. Je cite « J'ai entendu l'autre jour une magnifique conférence sur la famille, devant un auditoire catholique convaincu. Tout y était objectivement parfait. L'évidence de la famille comme groupe humain fondamental, l'importance des parents, la vie comme don, etc. Mais quelque chose manquait. J'ai donc réfléchi pour comprendre, comme dit le psaume 73, et j'ai trouvé, il ne manquait qu'un détail, Dieu. Donc l'auteur veut mettre en évidence l'importance de l'intervention de Dieu dans nos vies, car c'est par rapport au Créateur que les êtres trouvent leur identité, et cela les rend libres d'emprunter des chemins nouveaux dans le cas où c'est nécessaire. Heureusement, dit-il, que Marie a osé obéir à Dieu directement, sans passer par la soumission traditionnelle à son père, à son fiancé ou au rabbin. Marie a réfléchi seule, et elle a accepté le risque de passer pour une prostituée aux yeux de son peuple en portant un enfant hors mariage. Et le Christ ne serait pas venu parmi les hommes s'il n'y avait pas eu de place pour le nouveau, l'inattendu de Dieu dans notre monde. Bref, vous comprenez bien que dans ce livre, Philippe Lefebvre soutient le point de vue du pape François sur l'importance de la miséricorde. Il n'y a pas de refus de la tradition, mais un souci d'appliquer la justice avec miséricorde, en laissant la porte ouverte aux exceptions, en restant attentif aux différentes situations avec discernement. Je termine avec une dernière citation de ce livre. Voilà. Nous apprenons de la tradition, bien sûr. Elle constitue, au fil de l'histoire de l'Église, de grands axes de pensée qui nous orientent et nous dirigent. Il n'en reste pas moins vrai qu'il nous revient de continuer à penser, à faire la part des choses, à peser le pour et le contre concernant certaines idées. Donc je vous rappelle le titre de cet excellent ouvrage, « Propos intempestifs de la Bible sur la famille » de Philippe Lefebvre. Et vous pourrez trouver ce livre à la Bibliothèque diocésaine de Chartres, rue Saint-Aimant. Et je vous dis à présent au revoir chers auditeurs et à très bientôt.